Laudetur Jesus Christus.
Il est temps que l'Europe se réveille. L'appel d'Ursula von der Leyen lors d'une conférence à Bruxelles sur la sécurité et la défense en Europe. 4 jours après l'attaque iranienne sur Israël, la présidente de la Commission européenne alerte sur l'émergence d'une nouvelle coalition de régimes autoritaires. Nous l'entendrons. À l'issue de l'audience générale ce matin, le pape François a dénoncé le recours à la torture dans les prisons. Certaines deviennent des zones de non-droit. C'est le cas dans les camps contrôlés par les autorités kurdes dans le nord-est syrien, où sont détenus des anciens combattants de l'État islamique. Le président d'Amnesty International en France nous a décrit le quotidien des détenus. Près de 100 000 personnes déplacées par les pluies et les inondations au Burundi, l'un des pays les plus vulnérables au changement climatique dans le monde. Le gouvernement appelle à une aide financière pour y faire face. Et puis enfin, les États insulaires du Pacifique convoités par les grandes puissances mondiales, décryptage de la guerre d'influence qui s'y joue avec Géraldine Giraudot, professeure de droit public international.
Radio Vatican, le journal, Alexandra Sirgan.
Bonsoir à tous. La menace de la guerre n'est peut-être pas imminente, mais elle n'est pas impossible. L'avertissement de la présidente de la Commission européenne à Bruxelles ce mercredi, devant un parterre d'industriels et d'experts du secteur, Ursula von der Leyen a appelé le continent à aller plus loin en matière de défense et de sécurité. Quelques jours après l'attaque au drone iranien sur Israël, qui marque un tournant dans l'affrontement entre les deux pays, mais aussi pour la sécurité mondiale, on l'écoute.
Cette attaque ne doit pas être considérée de manière isolée. Il s'agit du dernier signal d'intention d'une nouvelle ligue autoritaire, avec la guerre d'agression brutale de la Russie contre l'Ukraine, la Corée du Nord qui livre à la Russie des commandes successives d'obus, de munitions, des drones iraniens qui survolent quotidiennement les villes ukrainiennes. L'Iran aide même la Russie en fournissant la technologie, les capacités de fabrication de ces drones sur le sol russe. Elle dote des groupes non étatiques comme les outils d'armes de nouvelles technologies permettant d'infliger des dégâts incalculables. La nouvelle ligue des autoritaires travaille de concert pour pousser nos démocraties jusqu'au point de rupture. Mesdames et messieurs, le fait est que le monde est aussi dangereux qu'il ne l'a jamais été depuis des générations et que l'Europe se retrouve au milieu de tout cela. C'est pourquoi il est temps que l'Europe se réveille. En matière de défense et de sécurité, les enjeux sont considérables. Notre liberté, notre prospérité dépendent de notre sécurité et nous devons adapter nos actions à l'évolution de l'environnement sécuritaire. C'est pourquoi nous devons commencer à travailler sur l'avenir de notre architecture de sécurité avec la rapidité et la volonté politique nécessaires.
Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. À l'est de l'Europe, en Ukraine, le bilan continue de s'alourdir à Tchernigiv. Après une triple frappe russe mercredi, près des immeubles résidentiels et un hôpital, au moins 14 morts et 60 blessés au dernier bilan. Le président ukrainien a une nouvelle fois mis en cause le manque d'aide de la part de l'Occident, notamment des États-Unis. Et à ce sujet, la Chambre des représentants américains va voter ce samedi sur des textes distincts permettant de débloquer des fonds pour l'Ukraine, mais aussi pour Israël et Taïwan. Une nouvelle enveloppe d'aide humanitaire à Gaza est également sur la table. Le Premier ministre israélien a lui récusé toute allégation de famine dans l'enclave palestinienne. Lors de rencontres avec les chefs de la diplomatie britannique et allemande à Jérusalem aujourd'hui, Benjamin Netanyahou a réitéré le droit d'Israël à se protéger. Tzahal confirme par ailleurs que 14 soldats ont été blessés aujourd'hui dans une frappe revendiquée par le Hezbollah au Liban. L'Ukraine et la Terre Sainte étaient à nouveau au cœur des prières de paix du pape François ce matin, à l'issue de l'audience générale place Saint-Pierre. À cette occasion, François a également lancé un appel pour la libération des prisonniers de guerre, parfois victimes de tortures qui portent atteinte à la dignité des personnes, a-t-il déclaré. Des mots qui résonnent tristement avec un rapport dévoilé aujourd'hui par Amnesty International. L'ONG demande un retour du droit dans le nord-est syrien et un appel en particulier aux États-Unis qui financent encore les autorités kurdes contrôlant la zone. Celles-ci commettraient en effet des crimes de guerre à l'encontre de 56 000 personnes, dont 30 000 enfants, détenus dans 27 centres et 2 camps destinés aux anciens combattants de l'État islamique. Jean-Claude Samouillet est le président d'Amnesty France. Il nous décrit le quotidien dans cette zone de non-droit.
On a documenté un nombre infernal de décès, des disparitions forcées, le recours à la torture avec des passages à tabac, des tortures à l'électricité, des tortures dans des positions douloureuses et des tortures également sexuelles. Les personnes qui vivent dans ces camps n'ont pas accès à l'eau, n'ont pas accès à une nourriture suffisante, à des médicaments. Il y a des cas de tuberculose et puis il y a parfois des situations dans des chaleurs extrêmes où là aussi ça entraîne la mort de nombreuses personnes.
Ce que vous décrivez touche autant les adultes que les enfants ?
Pour les adultes comme pour les enfants, et pour les affiliés ou les anciens membres du groupe État islamique, mais également des victimes de ces groupes, dont des yézidis, des femmes qui ont été victimes de traite, avec des mariages forcés avec des membres d'État islamique, avec des femmes qui sont agressées dans les camps pour infraction aux bonnes mœurs, entre guillemets. Et l'une de nos demandes, c'est qu'il y ait des procédures de filtration très très rapides pour justement faire libérer les personnes qui sont des victimes et en aucun cas des coupables.
Des propos recueillis par Marie Duhamel. On prend maintenant la direction du Pacifique, théâtre de rivalité géostratégique. L'Australie, puissance incontournable de la région, a dévoilé ce mercredi son tout premier plan de défense nationale. En 80 pages, l'Australie dresse un constat sécuritaire sombre de la zone, soumise d'après Canberra aux velléités expansionnistes chinoises. Pékin a réagi en affirmant aujourd'hui ne constituer une menace pour aucun pays. Dans cette guerre d'influence figurent au premier rang les petites îles du Pacifique comme les Tuvalu. L'archipel s'est récemment tourné vers l'Australie, signant un traité migratoire et un droit de regard en matière de défense et sécurité. Illustration s'il en est de l'étau dans lequel se retrouvent ces états insulaires, parfois considérés comme l'arrière-cour des grandes puissances. Géraldine Giraudot, professeure de droit public international, spécialiste des îles du Pacifique, nous en dit plus.
Les gouvernements des États insulaires du Pacifique, bien sûr, ne sont pas dupes de cette guerre d'influence. Ils essayent, dans la mesure du possible, et sans que le mot ait une connotation négative, d'en tirer profit, dans le sens où ils peuvent faire jouer cette concurrence, finalement, pour recevoir, tenter de recevoir l'aide dont ils ont absolument besoin pour faire face aux effets du changement climatique. Et en même temps, ils font l'objet d'une pression croissante puisque, quelque part, on les oblige à prendre parti. Alors que, à être des États souverains, ils sont libres de choisir leurs partenaires et, comme on peut l'observer dans le cadre de la société internationale, les États peuvent, indépendants et souverains, peuvent parfaitement avoir plusieurs partenaires économiques, politiques, plusieurs partenariats de défense et de sécurité. En l'occurrence, dans cette région, on arrive à une situation où ces États insulaires se retrouvent pris en étau dans un choix qui leur est imposé par la réalité des relations internationales.
Des propos recueillis par Delphine Allaire. C'est un phénomène météorologique venant du Pacifique, le phénomène El Niño, dont les conséquences sont planétaires. Sécheresse massive en Colombie, par exemple. Mais El Niño exacerbe également les pluies saisonnières en Afrique de l'Est, dont les effets sont dévastateurs. 58 personnes sont mortes ces deux dernières semaines en Tanzanie, pardon. Et au Burundi, près de 100 000 personnes ont été déplacées. Le gouvernement et la représentante de l'ONU sur place lancent un appel à une aide financière. La correspondance à Bujumbura de Léonce Bitayro.
À part les personnes affectées, habitations et salles de classe détruites, le nombre de déplacés internes a également été augmenté de 25% pour atteindre plus de 98 000 personnes selon toujours le communiqué. Pour la même période de septembre 2023 et le 7 avril 2024, le secteur de la sécurité alimentaire a enregistré plus de 40 000 hectares de champs de culture détruits. Plusieurs habitations érigées sur le littoral du lac Tanganyika se trouvent déjà dans l'eau. Bon nombre de familles ont déjà déménagé, mais il y en a qui restent, n'ayant pas où aller et sans assistance, sans parler de cas de perte en vies humaines. Et entre autres infrastructures socio-économiques et sous menace, il y a le port de Bujumbura et des lieux touristiques. Les prévisions météorologiques saisonnières fournies par l'Institut géographique du Burundi pour la période de mars à mai 2024 indique que les précipitations attendues seraient sensiblement au-dessus de la normale et risquent d'aggraver la vulnérabilité. Léonce Bitayro, Bujumbura, Radio Vatican.
Et pour faire face à cette situation, le gouvernement donc et la représentante de l'ONU sur place appellent à une aide financière pour le pays. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup pour votre écoute. Prochaine actualité francophone du pape, du Vatican, de l'Église et du monde, ça sera demain 8h30 heure de Rome. En attendant, excellente soirée à toutes et à tous.